Timothée 2,19. Voilà ce qu'il est rappelé. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent. Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois, en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Amen. Alors c'est bien, si la semaine dernière on a déjà retenu qu'on n'était pas des poubelles, il me semble qu'il y a quelqu'un qui sonne. Est-ce que on a fermé la porte? Voilà. C'est juste qu'on est encore en plan Vigipirate, donc on veut ouvrir aussi bien sûr à nos bien-aimés qui nous rejoignent au cours de ce culte. En tout cas, la semaine dernière, il y avait cette réalité que Dieu nous rappelait ce matin, nous sommes des vases d'honneur. Nous ne sommes pas des poubelles, hein, et désormais nous sommes appelés, là, dans les lieux célestes, à être ces vases d'honneur, à être à cette place privilégiée dans la présence du Seigneur. Et ce matin, on va continuer un petit peu sur cette pensée, ce vase d'honneur que nous sommes, on va voir son entretien. Parce que dans ce verset 21 qu'on va découvrir, eh bien, Paul nous parle de l'entretien de ce vase d'honneur. Un vase, ça s'entretient. On va voir sa nature. Quelle est la nature de ce vase? Et puis, nous verrons également sa fonction. Sa fonction. Voilà. À quoi il sert ce vase d'honneur que nous sommes devenus? Alors, Paul nous dit ceci. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, ça nous parle de l'entretien de ce vase. Hein, mesdames, vous qui connaissez bien l'entretien des vases, de votre service en porcelaine, de vos verres en cristal ou en cristal, voilà, vous savez de quoi je parle, hein, quand vous invitez quelqu'un, bien sûr, la nappe doit être impeccable, les couverts là aussi bien mis, et puis tout doit être bien propre. Et parce qu'on sait que dans la vie, pour quoi que ce soit, si nous n'entretenons pas, bien, ça va se dégrader, hein, voire se casser. Si on n'entretient pas la maison, la voiture, la machine à laver, le linge, etc., ben, ça va se dégrader pour finalement bien se terminer sans pouvoir utiliser l'objet pour pourquoi il était prévu. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Désormais, nous sommes appelés à entretenir la vie que Dieu nous a donnée. On est appelé à l'entretenir, à être de bons gestionnaires, de bons administrateurs des dons, des talents que Dieu nous donne. Je prends toujours ce parallèle avec Marie, hein, qui a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle avait en elle cette vie de Jésus qui se développait, et je pense que comme toute dame qui est enceinte, elle fera tout pour permettre que cette vie s'épanouisse, hein, que cette vie, là aussi, bien grandisse de la meilleure façon possible. Et il en est de même pour nous. Le vase d'honneur que nous sommes doit être quand même entretenu. Il doit être, bien sûr, entretenu. Et Paul emploie un mot, il dit ceci, si quelqu'un se purifie. Si quelqu'un se purifie, se nettoie, se rend propre, se lave, voilà, hein, vous connaissez le concept. D'ailleurs, cette notion de purification, on la rencontre dès le départ entre Dieu et son peuple. Hein, il y avait tout un rite, des rites de purification pour que, bien sûr, eh bien, le peuple devienne saint dans certaines occasions et puisse s'approcher de Dieu, s'approcher des sacrifices, s'approcher du lieu saint et du lieu très saint. Mais Jésus va venir, nous le savons, et sans remettre en cause ces rites de purification, il dira même parfois à certains, bien, va te purifier, etc., va auprès du souverain sacrificateur, et puis donne là aussi pour ta purification ce qui est convenable dans la loi de Moïse. Jésus va aller plus loin. Jésus va aller plus loin et aujourd'hui il n'est plus question bien sûr de rites particuliers pour se purifier, mais Jésus lui nous parle d'un état d'esprit, il nous parle d'une conscience nouvelle désormais, une prise de conscience. La purification finalement pour nous ce matin c'est une prise de conscience face à tout ce que Dieu considère comme impur. Et dans cette prise de conscience, eh bien, je vais me positionner devant Dieu. Il y aura là aussi dans mon cœur certaines choses que je vais mettre en place, mais ce n'est plus un rite, c'est une prise de conscience. D'ailleurs, Pierre dira que désormais, le baptême, ce n'est pas simplement se faire baptiser dans l'eau, mais c'est l'engagement désormais d'une bonne conscience. Ce n'est pas la purification des sûrs du corps, le baptême. Autrement, on y plongerait souvent, hein. Je pense que le baptistère, il serait toujours prêt, hein. Et moi, le premier, à l'abri des regards, le dimanche matin, à 7h du matin, j'irai me plonger comme ça. Oh, vous avez un pasteur qui est pur. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Et concrètement, Paul, ici, parle de la purification. Il fait référence au verset d'abord 19. Et au verset 19, il est dit ceci. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Qu'il se détourne du mal. On a une première définition de la purification ici. C'est de se détourner du mal. Et le mot mal ici peut être remplacé par le mot iniquité. Dans l'original, il y a trois mots, on les verra ce matin. Mais se purifier, c'est se détourner de l'iniquité. C'est se détourner littéralement du péché. C'est que désormais notre conscience, eh bien, ne veut plus être esclave du péché. Il y a une belle image hein, qui est citée dès les premiers textes de la Bible, c'est dans Genèse au chapitre 4, verset 7. Quand Dieu va dire à Caïn cette parole, vous la connaissez certainement, il a déjà des ressentiments par rapport à son frère Abel, et Dieu va lui dire ceci, c'est une belle image je trouve, le péché se couche à ta porte, la porte. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Et il dit même ceci, Dieu, ses désirs se portent vers toi. C'est fort quand même, hein. Je ne sais pas quelle image on peut avoir. Imaginez, je ne sais pas, vous êtes de votre maison ou votre champ, votre salon, et puis là, Dieu vous dit, mais attention, hein, il y a le péché qui couche à ta porte, là, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Domine sur lui. Domine sur lui. C'est une question de conscience, de prise de conscience. Ce matin, parce que nous sommes des vases d'honneur, eh bien, nous refusons désormais, eh bien, de vivre sous la dépendance du péché. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, nous ne chutions pas. C'est vrai, nous pouvons encore chuter, mais désormais, nous ne voulons plus vivre sous cet esclavage, sous cette tyrannie du péché. Nous refusons, nous savons qu'il couche à la porte de notre vie et que ses désirs se portent vers nous. Mais Dieu nous dit, bien, toi domine sur lui. Purifie-toi. Domine sur lui. Parce que la Bible nous dit que finalement, quand nous chutons, quand là aussi nous cédons à une passion coupable vis-à-vis du péché, la Bible nous dit que nous avons auprès du Père un avocat, nous confessons, nous reconnaissons auprès de Jésus, et la Bible nous dit qu'il est prêt pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1,9. Et pour nous purifier de tout mal. Le vase est propre. Le vase est purifié par rapport à cette réalité du mal, du péché, de l'iniquité. Et désormais, le vase est entretenu. Et ce matin, bien, nous pouvons nous entretenir, prendre la chiffonnette, prendre je ne sais pas quoi, le produit, etc. Et puis si cette semaine, eh bien, nous réalisons par le Saint-Esprit que nous avons péché, alors nous avons un avocat. Nous confessons, nous proclamons, nous nous humilions, et puis eh bien, nous pouvons nous nettoyer. Le Seigneur, le sang de Christ nous purifie de tout. C'est extraordinaire. Le vase est purifié. Romains 12, 9, un deuxième terme concernant justement cette expression du mal, une autre origine spirituelle. Romains 12, 9 nous dit ceci, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Se purifier, c'est ici avoir le mal en horreur. Avoir le mal en horreur. Et ici, le terme mal a une origine satanique. Une origine satanique. Dans Matthieu 13, 19, il est question du malin. C'est le même terme ici. Et on pourrait dire, eh bien, ayez en horreur là aussi toutes les œuvres du diable, toutes ces manigances, tout l'état d'esprit qu'il est en train d'insuffler. Ayez cela en horreur. Ne vous en mêlez pas, n'y touchez pas. Et c'est là aussi la manière dont on veut se purifier. Il y a, nous le savons, dans notre monde, il est le prince de la puissance de l'air, eh bien, une inspiration là aussi satanique. sur toutes sortes de philosophies qu'on entend de plus en plus, sur toutes sortes, eh bien, de réalités spirituelles ou même parfois morales, immorales, pardon. Et nous ne voulons pas non plus, eh bien, avoir quoi que ce soit à voir avec ce genre d'idéologie, d'influence. La Bible dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. Là aussi, ayez en horreur ce mal d'origine satanique. Romains 13, 12, je vous le rappelle, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et là encore, le vase est purifié. Lorsque nous dépouillons de ces œuvres de ténèbres, il y a un exemple très pratique, hein, très concret dans l'Écriture. C'est l'exemple d'Ananias et Saphira. Vous vous rappelez, hein, la manière, là aussi, dont ils vont essayer de tromper le Seigneur. À l'époque, eh bien, certains donc vendent leur terrain et puis donnent la totalité aux apôtres. Très bien, super. D'autres ne veulent pas le faire. C'est pas le problème. Alors Ananias et Saphira, eh bien, ils vont faire ce petit complot personnel. Hein, ils vont vendre là aussi, mais ils vont retenir une partie du champ, ils vont dire « Ah ben regardez, comme les autres, etc. » Et là, il y a quand même Pierre qui lui dit « Mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Ils avaient cédé à l'esprit satanique à ce moment-là, et ils s'étaient laissés piéger, et on connaît la suite. On connaît. Mais ce matin, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, et le vase sera purifié. Amen. Le Seigneur nous purifie. « Oh, pourtant je suis un chrétien, etc. » On peut être inspiré là aussi par le malin. Ça ne veut pas dire être possédé. Pierre va dire un jour, « Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Jésus dira, « Mais arrière de moi, Satan. » Tu ne sais pas de quel état d'esprit tu es inspiré quand tu dis ces paroles. Que le Seigneur là aussi nous garde. Mais nous pouvons purifier également le vase. Et puis, toujours dans Romains, mais 12-21, il est dit ceci, c'est pas le même terme dans l'original, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi sois vainqueur du mal par le bien. On est dans, juste une parenthèse, dans une théologie où souvent sur Internet les messages c'est sois victorieux. Ah, victorieux, alors on y va, victorieux sur tout, et c'est bien. Mais ne pensez-vous pas ce matin qu'une des plus grandes victoires, des plus belles victoires, des plus dures victoires, c'est la victoire sur nous-mêmes, parce que là il est question du mal d'origine charnelle, la chair qui se manifeste, hein, c'est le terme ici qui est utilisé, ne te laisse pas vaincre par le mal que va susciter là aussi ta chair qui va se rébeller, qui va s'opposer. La victoire sur notre propre moi, hein, sur notre propre chair, c'est aussi bien un combat, nous le savons, quotidien, parce que notre chair s'opposera systématiquement à la parole de Dieu. Je veux dire, c'est un principe. Dès que Dieu va nous conduire dans sa présence, dans les réalités de sa parole, la chair dira non. Ça, c'est caractéristique. Personne n'y échappe, c'est comme ça. Personne. Et là, Paul nous dit, eh bien, ne te laisse pas vaincre par le mal. Cette opposition charnelle, quotidienne, mais surmonte, sois vainqueur de ce mal par le bien. Galates 5, 19, connaissez ce beau catalogue, et il n'est pas exhaustif, hein, des œuvres de la chair, de temps en temps on s'y reconnaît quand même, hein, il faut le confesser. Galates nous dit ceci, 5, 19, et voilà ce que dit Paul. Les œuvres de nature humaine sont évidentes, c'est l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les acceptables et les choses semblables, etc., etc. Mais ce matin, nous pouvons purifier également le vase. Si quelqu'un se purifie de ce mal, hein, verset 16, « Voici ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Amen. Le vase est purifié. Ce matin, nous pouvons là aussi purifier notre vase, afin que dans cet entretien, j'allais dire quotidien, journalier, eh bien, le vase soit préservé, qu'il soit purifié, qu'il soit propre, qu'il soit propre. Et ça, ce matin, c'est quelque chose qui est important. Il y a un entretien de ce vase d'honneur que nous sommes. Alors, quelle est sa nature, hein, quelles sont ses caractéristiques à ce vase? Eh bien, il est dit ceci, il est d'un vase d'usage noble, saint. Un usage noble, un usage saint. Je dirais ce matin que le vase est à l'image de son propriétaire, de son maître, de celui qui va l'utiliser, de celui qui veut l'utiliser. Dans le psaume 115, versets 4 à 9, on a eu entendu ce don spirituel tout à l'heure, il est question justement des idoles. On va lire d'ailleurs ce texte dans le psaume 115, versets 4 à 9, et voilà ce que Dieu dit, psaume 115, verset 4. « Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. » Les pieds ne marchent pas, leur gosier ne produit aucun son. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les idoles et le vase? Alors j'y viens, ils le ressemblent, ceux qui les fabriquent. Ils le ressemblent. Il y a une identité. Parfois, on dit que certains chiens ressemblent à leur maître. Il y a des concours d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, avec des profils un petit peu étonnants, on a l'impression qu'il y a une connivence, etc. Et là, il est dit ceci, ils le ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et Dieu dit après, Israël, confie-toi en l'Éternel. Pourquoi Dieu dit cela? Pourquoi Dieu dit, juste après ce passage de la ressemblance entre les idoles et puis ceux qui les fabriquent, il dit, mais toi, Israël, ressemble à ton Dieu. Confie-toi plutôt en ton Dieu. Parce que justement, bien, Israël et nous sommes appelés à ressembler à notre Dieu. On a été créés à son image. Nous sommes des vases d'usage noble. Nous sommes à l'image, nous avons été créés à l'image, et nous sommes faits là aussi pour être à l'image de Dieu, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Et voilà pourquoi ce matin, nous sommes un vase d'usage noble, qui va refléter l'image de Dieu, qui va refléter l'image de Dieu en lui, à travers lui. On parlait la semaine dernière de cette cristalline baccarat réputée dans le monde entier. Et là, quand justement on s'arrêtait au feu rouge devant cette belle cristallerie de baccarat, eh bien, il n'y avait pas simplement des vases ou des lustres, mais il y avait toutes sortes d'éclairages. Et les vases, les lampadaires en cristal, eh bien, ils reflétaient de mille feux. C'était extraordinaire. Ils reflétaient là aussi et ils démultipliaient. Bien cette lumière qui était sur eux, un vase de cristal qui est éclairé, un vase de cristal que nous sommes, un vase d'honneur, quand nous sommes éclairés par la gloire de Dieu, bien on va refléter cette lumière. On va refléter cette lumière et on va démultiplier, j'oserais dire, cet éclat extraordinaire parce que nous sommes d'un usage noble. Une autre traduction dit ceci, il sera un vase à honneur, un vase à honneur. C'est-à-dire destiné à honorer dans une cérémonie ou quelqu'un, peut, mais c'est un vase à honneur. Et Pierre va dire ceci, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, pardon, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ce matin, bien, nous sommes des vases d'honneur à usage noble. Parce que notre Dieu, on pourrait dire comme cela, bien, fait partie de la poubelle des noblesses. Hein, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et nous sommes à l'image de notre Dieu. Alors, il y a quelques exemples dans la Bible qu'on pourrait considérer comme des vases d'honneur, en tout cas. Rappelons-nous déjà une première remarque, c'est que nous sommes comme des vases d'or, d'argent arrachés à l'Égypte, c'est-à-dire arrachés à ce monde. Vous vous souvenez que les esclaves d'Égypte, pendant 430 ans, ne sont pas sortis de l'Égypte avec leurs chaînes, avec leurs entraves, avec leurs vieux habits. La Bible nous dit que quand, et on en parlera tout à l'heure, ils ont offert des matériaux et des dons pour le tabernacle, Dieu demande toutes sortes de choses. La Bible nous dit que Dieu a touché le cœur des Égyptiens pour que... Bien, il parle et ce peuple est parti avec des vases d'or, avec d'argent. Et ce matin, nous sommes des vases d'or, des vases d'argent arrachés à ce monde que Dieu a transformé. Amen. Quel privilège, quelle grâce. Et puis, dans Exode, au chapitre 16, vous relirez, il est question là aussi à un moment donné de cette manne qui, pour souvenir, va être contenue dans un vase. Et Dieu parle de ce vase, il dit, tu prendras un vase, tu mettras de la manne dedans, et tu le mettras devant moi dans ma présence, dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Un vase d'usage noble, ce matin, rempli de sa parole. rempli de sa parole pour rester, pour être dans sa présence, rester dans sa communion. Voilà ce que nous sommes également, remplis de sa parole, dans sa présence. Quelle grâce pour nous. Ce que Dieu veut avant tout, nous le savons, c'est que nous soyons en communion avec lui. Puissions grandir dans cette communion, remplis de sa parole, remplis de sa manne, et puis que nous restions là dans sa présence, pour l'adorer, pour le bénir, pour le servir, pour l'écouter. Ésaïe 66, 20, il y a une dimension prophétique concernant Jérusalem, mais il est dit ceci, que à ce moment-là, les Israélites vont amener leurs offrandes à la maison de l'Éternel dans des vases purs, dans des vases purs. Si aujourd'hui on regarde et on entend et on écoute les informations qui viennent d'Israël, ils ne sont pas encore dans cette dynamique. Nous le savons spirituellement, bien le peuple d'Israël est mort, nous le savons. Mais viendra ce temps où Jérusalem va devenir cette pierre pesante et puis même ensuite les nations viendront se prosterner. C'est ce que dit l'Écriture. Et là il est question à ce moment-là de restauration. Il est question de la grâce de Dieu, de sa puissance de vie face à la mort spirituelle. Oui, ce matin, nous sommes également ces vases purs, au travers desquels Dieu manifeste sa puissance de vie, sa restauration, face à tout ce qui pourrait être mort dans nos vies. Dieu nous dit bien que nous sommes comme des vases purs, amen, dans lesquels il y a cette puissance de vie. Et puis on connaît tous l'exemple, dans le Nouveau Testament, Matthieu 26, 7, c'est le vase d'albâtre. C'est le vase d'albâtre, qui renferme un parfum de grand prix, destiné à corrompre. Être brisé pour parfumer, eh bien Jésus. Et vous connaissez également cette parole de 2 Corinthiens 2,14, que Dieu soit remercié. Si vous avez un sujet de remerciement aujourd'hui, eh bien c'est peut-être encore celui-là. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Le parfum de sa connaissance. Le vase d'honneur que nous sommes, eh bien, dégage au travers de nous, eh bien, le parfum de sa connaissance. Quand parfois nous sommes dans des rencontres, etc., on peut reconnaître une personne à son parfum. Et voilà, tel parfum est associé à cette personne. Eh bien, ce matin, nous sommes destinés en tant que vase d'honneur à répandre le parfum de sa connaissance. Vous vous rendez compte quel honneur, quelle responsabilité, quelle place importante nous avons, que le Seigneur nous accorde sa grâce, parce que il dira, vous serez saints parce que je suis saint. Vous êtes d'un usage noble parce que je suis noble. Amen. Et puis on termine par la fonction de ce vase, 2 Timothée 2,21. Il est utile à son maître, il est prêt à toute bonne œuvre. Utile à son maître. Propre au service du maître, purifié pour le service du maître. Être au service d'eux, être utile entre les mains du maître. On s'est toujours, on s'est souvent laissé interpeller par cette pensée, et peut-être que quelqu'un ce matin se l'a dit encore, mais finalement, je me sens tellement inutile. Je ne sers à rien. Ou à quoi est-ce que je sers ici-bas? Je me sens inutile, je suis comme une potiche. Vous connaissez l'expression, une potiche. Alors, j'ai regardé sur le dictionnaire. La potiche, d'abord, c'est un grand vase de porcelaine d'Extrême-Orient. C'est un beau vase, etc. Mais le sens figuré, c'est une personne qui est reléguée à une place honorifique, mais sans aucun rôle actif. C'est quelqu'un qui a un titre, mais elle ne fait rien. Surtout, ne bouge pas, ne fait rien. Pour certaines administrations, c'est mettre quelqu'un au placard. Vous connaissez l'expression. Voilà. Il est encore payé, mais il est au placard. Et peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, ben moi je suis comme une potiche. Je suis inutile. Je ne sers à rien. Je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. J'ai essayé, etc. Le Seigneur nous rappelle quand même ce matin que nous sommes des vases d'honneur, purifiés, saints, utiles à notre maître. Nous sommes utiles à notre maître. Il y a un exemple dans l'Écriture, c'est l'exemple de Philémon. Philémon, c'est un esclave. Son maître est chrétien. Et à un moment donné, bien, Philémon s'enfuit. Et il semble que dans sa fuite, je ne sais pas trop, il se convertit. Il devient chrétien. Et il va assister Paul à Rome dans ses derniers jours. Alors Paul va écrire à le maître de Philémon, il va dire ceci, finalement, eh bien, il a été un esclave, Il a été un esclave, mais désormais, il m'est utile à moi et à toi. Reçois-le désormais non pas comme un esclave, mais comme un frère. Mais comme un frère. Et ce matin, eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes reçus du Seigneur non pas comme un esclave, mais comme un frère, comme une sœur. Et quoi que nous disions, quoi que nous pensions, si nous nous purifions, eh bien, nous sommes utiles, nous sommes un vase utile. Même si j'ai 75 ans, même si j'ai 80, même si j'ai 14 ans, même si j'ai 15 ans, même si j'ai 6 ans, à partir du moment où je suis un vase d'honneur pour le Seigneur, je suis utile pour mon maître. Philémon va devenir utile pour Paul et puis pour ce maître aussi qui était chrétien. Alors on a tous nos objections, on a tous notre passé. Moïse, ah Seigneur, envoie-en un autre parce que j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ça c'est Moïse. Moi je suis inutile. Jérémie, à peu près le même tonneau, hein. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Moi j'aime bien Gédéon. Mon clan est le plus faible de Manassé. Ça commence comme ça. Et ensuite, il dit, et moi, je suis le plus petit dans la famille de mon père. Donc, on ne pouvait pas faire mieux en termes d'inutilité. Vaillant héros. Non, Seigneur, c'est pas moi. Et puis, que penser de Pierre, le prêtre? Que penser de Paul, le meurtrier? Ils auraient pu se considérer vraiment inutiles dans l'œuvre de Dieu, hein, les deux-là. Et pourtant, après un temps de repentant, de restauration, un temps d'appel, eh bien, Dieu va utiliser des Jérémie, des Gédéon, des Moïse, et puis chacun d'entre nous. Se sentir inutile, c'est une chose. C'est un sentiment qui peut être parfois passager, mais très fort. Mais cela, ce matin, ne doit pas nous conduire à refuser que Dieu nous utilise. C'est pas pareil. Oui, je peux me sentir indigne, je peux me sentir fêlé, un vase fêlé. En faisant la vaisselle dernièrement, j'ai cassé un vase aussi. Il est toujours devant moi. Alors c'est un beau vase, mais paf, tout est parti. On ne peut plus rien faire, hein. Direction poubelle. Et parfois on se sent comme ça, on dit Seigneur, je suis inutile. Mais c'est une chose d'avoir ce sentiment, mais que Dieu nous aide à ne pas refuser qu'il nous utilise. C'est lui le potier, c'est lui qui forme, c'est lui qui nous donne, etc. Hein, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et chacun d'entre nous, nous avons été choisis de Dieu pour être utiles à son œuvre. Et puis on termine, prêt à toute bonne œuvre. Prêt à toute bonne œuvre. Hein, on se souvient de ce que dit Éphésiens au chapitre 2 et le verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes des vases d'honneur et non pas non plus des cruches. Ah oui, on passe de la poubelle à la potiche et maintenant à la cruche. Bon, je suis sûr que dimanche prochain vous aurez retenu aussi ces choses. Pourquoi je dis une cruche? Alors vous connaissez également l'expression en français, hein, une personne cruche ou une gourde. C'est pareil, hein. C'est une personne stupide et ignorante. Personne stupide et ignorante. Mais ce matin, nous sommes des vases d'honneur, parce que nous sommes désormais remplis de l'Esprit, et nous ne sommes pas ignorants de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes stupides. Nous ne sommes pas des personnes ignorantes. Dieu a, excusez-moi, élevé notre niveau. Alors, même si nous n'avons pas de grandes capacités intellectuelles, désormais, en Christ, eh bien, nous avons le même Esprit qui nous anime. Amen. Et nous avons les mêmes dons, les mêmes capacités que Dieu nous donne. Et nous ne sommes pas des cruches. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas une cruche ce matin. Tu es un vase d'honneur. Mais tu es un vase d'honneur. Et tu es prêt à toute bonne œuvre. Être prêt, c'est quoi? Ben, c'est avoir un cœur disposé. Seigneur, écoute, c'est vrai que si je ne regarde qu'à moi, je ne peux pas. Ok, c'est ce sentiment qu'ont eu Moïse, Gédéon et les autres. Mais malgré tout, ils se sont laissés utiliser. Ils étaient prêts à accomplir l'œuvre de Dieu. Et je termine avec ces fameuses offrandes pour la construction du tabernacle. Quand on voit la description dans Exode 25, on n'a pas le temps de le dire, mais Dieu demande de tout. Il demande de l'or, de l'argent, il demande des couvertures en poils de chèvre, il demande des saphirs, des émeraudes, des bijoux. Je me dis, mais ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Ça sort des richesses de l'Égypte. Dieu a dépouillé les richesses de l'Égypte pour s'en servir, pour construire son tabernacle. Je veux dire, c'est quand même. Nous, on dirait, ah non, c'est de l'or qui est souillé, c'est des rubis qui ont souillé, etc. Peut-être qu'on aurait eu cette réaction, mais Dieu est Dieu. Et il va montrer là aussi, bien qu'il a pu dépouiller les richesses de l'Égypte, oui, qui était un peuple idolâtre, voué à toutes sortes de faux dieux, et d'en faire quelque chose dont il va se servir pour construire son œuvre. Pour construire son œuvre. Des vases d'or et d'argent vont être fondus. Vont être fondus et utilisés pour cette œuvre que Dieu avait préparée d'avance parce que la Bible nous dit que les cœurs étaient disposés. Parce que les cœurs étaient disposés. Parce que les cœurs étaient prêts. Alors ce matin, pour conclure, eh bien, que Dieu nous rappelle sa bonté, nous sommes des vases d'honneur. Et on ajoute, on n'est pas des poubelles, on n'est pas des potiches, et on n'est pas des cruches. On est des vases d'honneur, frères et sœurs. Souvent l'adversaire nous fait croire le contraire, notre chair nous fait croire le contraire, le monde nous fait croire le contraire. Mais ce matin, rappelons-nous, nous sommes des vases d'honneur. On n'est pas des poubelles, on n'est pas des cruches, on n'est pas des gourdes, on n'est pas des potiches. Alors, purifions-nous pour être utiles, pour que les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, nous puissions les accomplir. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce ce matin de relever la tête, de dire Seigneur merci, parce que tu as fait de nous des vases d'honneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage encore ce matin par sa grâce et par sa bonté. Peut-être que certains se disent, mais moi je suis brisé à l'intérieur, qu'est-ce que Dieu peut faire? Eh bien, il peut, nous le savons au travers de Jérémie, bien recréer un vase tout propre, tout neuf, etc. C'est pas un souci. On prie le Seigneur quelques instants, et puis ensuite, eh bien, on pourra partager cette sainte scène qui nous rappelle que Christ, eh bien, accomplit cette œuvre pour chacun d'entre nous. Amen.